Mesdames et messieurs, si vous voulez bien, nous allons commencer. Je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, que cet après-midi, à la place ou à l'intérieur de mon séminaire, Madame Sujandra Ghosh fera une conférence sur le site bouddhique mal connu de Mayinabati au Bengale oriental, près Bangladesh. Nous allons reprendre donc la question du Mahayana. Vous avez vu, avant qu'on passe sur cette image, qu'il y a toute une série d'images qui sont préparées, mais à la vitesse où nous allons, je ne suis pas sûr que vous les voyez toutes aujourd'hui. Donc je reprends le problème du Mahayana parce que c'est un problème crucial et c'est un des problèmes sur lesquels on a écrit d'une part beaucoup de bêtises, comme je vous l'ai dit la semaine passée, et c'est un problème où les découvertes matérielles, en particulier de manuscrits, et aussi les changements de conception font que il y a de gros changements dans la vue que les Occidentaux, en tout cas, ont de la manière dont le bouddhisme ancien et le Mahayana non seulement ont pu coexister, mais ont pu être très étroitement liés. C'est sans doute une des choses les plus importantes des travaux qui ont eu lieu depuis 20 ans. Et il n'y a pas véritablement de livre ni même d'article qui en traite à fond. Donc, ce qui me permet d'aller peut-être un peu plus loin dans la discussion. Alors, je vous ai parlé la semaine passée de ce qu'était le bouddhisme ancien, comment on pouvait le caractériser rapidement, ce qu'était le Mahayana, comment on pouvait le caractériser rapidement, et j'ai beaucoup insisté sur le fait, souvent oublié, que nous sommes dans un milieu indien traditionnel qui partage avec l'hindouisme un certain nombre de conceptions et un certain nombre de présupposés et même de préjugés qui vont tellement de soi qu'on ne les questionne pas. Que déjà, ceci explique beaucoup des rapports entre le Mahayana et le Hinayana. La deuxième chose, c'est que les lectures occidentales du bouddhisme, en particulier en Grande-Bretagne et en France, après malheureusement Burnouf et Sylvain Lévy, ces lectures du bouddhisme ont été très influencées par le fait que les textes bouddhiques les mieux connus étaient les textes palis, qui en eux-mêmes sont déjà des textes fondamentalistes, mais qu'en plus ces textes palis des Théravadines ont été interprétés à la lumière des conceptions protestantes des Européens qui ont, d'une certaine manière, rénové le bouddhisme birman et le bouddhisme cinghalais à la fin du XIXe siècle. Et la préoccupation historiciste des historiens occidentaux fait qu'on a cherché à trouver dans les textes anciens un noyau historique qui a été et que ce qui était considéré comme historique était en même temps considéré comme ce qui était vraisemblable, ou inversement, ce qui était vraisemblable était considéré comme historique, et le reste, c'était du folklore indien, sans qu'on se demande quelle était la place de ce folklore indien dans ce qui importait pour les Indiens, c'est-à-dire la croyance. Dans ce folklore indien, il y avait les nombreuses apparitions de Dieu et les épithètes surnaturelles appliquées au Bouddha qui ont été laissées de côté, les Occidentaux cherchant simplement à retrouver dans le Bouddha un homme comme vous et moi, mais un peu plus intelligent et ayant fait un peu plus de choses dans sa vie, ayant apporté, comme on disait dans ma jeunesse, une nouvelle vision du monde et non pas une nouvelle fois. Et de ceci font que, à mon avis, il y a eu, enfin, pas seulement à mon avis, c'est un avis maintenant généralisé, on a considéré que le bouddhisme n'était pas une vraie religion, hein, mais que c'était avant tout une philosophie, une explication du monde, alors que pour les fidèles, on voit très bien, non seulement les fidèles présents, mais les fidèles anciens, quand on regarde la sculpture du Gandhara comme celle que vous avez là, ou quand on regarde les inscriptions, le bouddhisme n'a rien d'une philosophie, c'est une religion où l'on adore des personnages qui ne sont pas des dieux, mais qui sont supérieurs aux dieux, c'est le titre du Bouddha, Natideva, et on leur rend un culte, et ce culte, on le rend en vue d'obtenir quelque chose. Parmi les choses qui lient, de ce point de vue, le bouddhisme ancien et le bouddhisme dit Mahayana, il y a un certain nombre de choses qu'il faut voir. On vous dit que le but du bouddhisme ancien, c'est de devenir arhant, c'est-à-dire être dans sa dernière existence et ne plus renaître, ce qu'on appelle le nirvana. Ce nirvana n'a jamais été véritablement défini, mais une première chose à remarquer, c'est que très probablement, le nirvana du Bouddha, qui, dans nos termes incroyants, se traduit par la mort, n'est pas celui de l'arhant, celui qui a épuisé toutes ses racines d'actes et qui donc ne renaîtra plus. Il y a beaucoup de traits communs entre l'arhant et le Bouddha. Par exemple, une attaque contre un arhant est aussi grave qu'une attaque contre le Bouddha, ça vous vaut la descente immédiate, plus exactement la projection immédiate dans les enfers. L'arhant a des pouvoirs merveilleux comme celui de se déplacer dans les airs ou celui de lire dans les pensées d'autrui, qui sont presque ceux du Bouddha. Ceux du Bouddha sont plus importants. Mais, par exemple, l'arhant ne choisit pas le moment de sa mort. Et on peut se dire que, aussi, l'arhant dépend du Bouddha dans la mesure où son accès au nirvana dépend non seulement de ses actes passés et de ses actes dans sa vie ou de son absence d'actes dans sa vie actuelle, mais du fait qu'il a eu la chance de rencontrer le Bouddha ou de vivre dans une époque où le dharma était encore prêché. Et dans les textes anciens, on sait que ce dharma ne doit durer que 500 ans. L'arhant atteint donc le nirvana, non seulement à cause du pouvoir de ses actes, le karman, mais aussi par une espèce de transfert des mérites venant du Bouddha, le contact avec le Bouddha lui permettant d'obtenir des résultats qu'il n'aurait sans doute pas obtenus seul. C'est une différence tout à fait importante. De même, les reliques d'un arhant ont un certain pouvoir. C'est la raison pour laquelle les stupas dits votifs, en réalité les stupas secondaires, les petits stupas qui dans tous les monastères entourent parfois par centaines le grand stupa principal, ces stupas souvent sont construits autour de cendres d'un moine particulièrement pieux et pour les stupas les plus anciens, semble-t-il, autour des cendres des premiers disciples du Bouddha, des premiers arhantes. Or, quels que soient les textes, l'on nous dit bien que le pouvoir des reliques du Bouddha est beaucoup plus important que celui des reliques de n'importe quel Arendt. Les inscriptions de fondation parlent d'un dépôt de reliques du Bouddha, ils ne parlent jamais des reliques d'un Arendt. Le seul cas qui existe, ce sont les reliquaires trouvés dans les stupas des environs de Sanchi et dont l'interprétation est loin d'être sûre. Le nirvana, que en tant qu'occidentaux, incroyants, nous assimilons un peu trop rapidement à la mort, ça n'est certainement pas une mort. Ce n'est certainement pas une mort, bien que physiquement cela se traduise ainsi, bien qu'il y ait des témoignages sur les funérailles du Bouddha, qu'il y ait des témoignages sur la douleur que ça procure auprès de ses disciples les moins avancés, et bien que dans l'iconographie, cela soit illustré uniquement par des scènes de mort et des funérailles. Mais ça n'est pas une mort, puisque le mot mort en sanskrit, c'est mrityu, et ce que nous appelons les renaissances, les bouddhistes l'appellent la remort, la punarmrityu. Et vous vous rendez bien compte que le Bouddha, qui justement échappe à la mort, ne peut pas mourir. C'est quelque chose d'autre qui est indéfinissable et qui n'a jamais été défini par les bouddhistes, mais qui est quelque chose qui manifestement échappe à la compréhension des humains qui ne sont pas arrivés à ce stade. Alors, si vous voulez plus de précision, il y a depuis très longtemps, depuis le début du 19e siècle, du 20e siècle, une très bonne étude de la vallée Poussin là-dessus. Et si vous avez le courage, vous avez aussi le livre de Mus sur le Borobudur qui traite de ça abondamment en utilisant un vocabulaire plus occidental du passage à un autre plan, etc. Mais de toute façon, le nirvana n'est pas défini et il n'est pas défini comme dernière existence. Il est surtout défini comme une disparition temporaire du dharma, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde si mauvais que la doctrine proclamée par le Bouddha et qui permet à un certain nombre de personnes vivant dans ce monde d'échapper à la remorque, cette doctrine ne durera que 500 ans. Ensuite, ça a été prolongé d'année en année, mais au départ, c'était uniquement 500 ans. Tout simplement parce que nous sommes dans une période de fin de cycle et que les êtres sont tellement mauvais que déjà, c'est un miracle qu'ils aient que certains aient accepté l'enseignement du Bouddha, mais que ça ne durera pas très longtemps. C'est une vue très pessimiste des choses, de même que cette affirmation fondamentale du bouddhisme ancien, c'est que tout est douleur dans ce monde. Et de ce point de vue-là, le pessimisme du Hinayana vaut largement celui du grand véhicule, à cette différence près qu'à mon avis, celui du grand véhicule est encore plus grand, puisque dans le grand véhicule, il n'y a pas de possibilité de nirvana dès cette existence. En fait, on prolonge indéfiniment sa vie dans ce monde de souffrance pour sauver les autres, ce qui n'est pas une perspective très gaie. Donc, d'une certaine manière, le bouddhisme ancien nous indique que le Bouddha ne peut pas mourir et que s'il ne peut pas mourir, c'est qu'il est un être éternel. Et l'on voit très bien que le glissement avec les Bouddhas éternels du Mahayana est très facile. L'une des caractéristiques du Mahayana, c'est la multiplicité des Bouddhas et le fait qui va avec une multiplicité des mondes. Et le fait également que, en rendant un culte à ces Bouddhas, parfois un culte très simple, de dire simplement hommage à Amitabha, on obtient la libération pour soi et par transfert des mérites pour les êtres. Ceci paraît tout à fait étranger au bouddhisme ancien. En réalité, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas tout simplement parce qu'on n'a pas su le voir. Alors là, ce que je vais vous dire, vous ne l'aurez lu nulle part. La multiplicité des Bouddhas, elle se trouve dans les inscriptions anciennes dès le départ, c'est-à-dire dès le premier ou le deuxième siècle, à partir du moment où l'on exprime des vœux. Et si vous regardez les inscriptions du 1er et 2e siècle de notre ère, qui sont des inscriptions du bouddhisme ancien, puisque très souvent dédiées aux maîtres Sarvastivadin ou Dharmaguptaka ou Kashyapiya, donc des Nikayas, des groupes qui sont clairement du bouddhisme ancien, vous verrez que de temps en temps, apparaît l'inscription pour non seulement pour que M. Intel obtienne le nirvana, mais à côté en l'honneur de tous les Bouddhas au pluriel. Donc cela signifie déjà qu'il y a une multiplicité des Bouddhas. En plus, bien que j'ai toujours traduit dans ma carrière Puja par en l'honneur d'eux, c'est je m'aperçois maintenant que cette traduction est une traduction fausse. Il est évident que lorsque vous avez le mot puja qui est employé lorsqu'on parle d'un supérieur hiérarchique, par exemple un kshatrapa, quand un petit officiel ou un petit propriétaire fait une inscription et qu'il en dédie le mérite à un supérieur hiérarchique, que ce soit un maharaja ou un kshatrapa, et qu'il dit « Pujae » en l'honneur de Kanishka ou en l'honneur de Rajvuvula. Évidemment, nous sommes forcés, en français ou en anglais, de traduire par « en l'honneur de ». Mais le mot puja ne désigne pas ça du tout. Ça désigne une cérémonie qui est un culte. La puja, c'est la façon normale dont les Indiens, depuis le 1er siècle avant notre ère, rendent hommage à une divinité ou à un gourou, à un maître. C'est la même chose. Et ça consiste en des offrandes de fleurs, ça consiste en des offrandes de parfums. Évidemment, comme c'est un gourou, ça consiste souvent aussi en des offrandes d'argent. Mais Pujae signifie littéralement pour le culte de. Et l'on peut suspecter que lorsque cette puja se fait en l'honneur de parents proches, les pères et les mères, ces pères et ces mères sont décédés. C'est dit de façon très claire dans l'inscription de l'an 5 du Bouddha de Marteau, mais lorsque ça n'est pas dit, on peut le supposer parce que quelqu'un qui fait le don d'une statue ou d'un reliquaire, c'est quelqu'un qui est adulte, quelqu'un qui a eu le temps d'amasser de l'argent. Il a probablement 30 ou 40 ans, et à cette époque, les gens de 40 ans, depuis longtemps, n'avaient plus en tout cas leur mère. Les mères mouraient en couche assez vite. Et donc, très probablement, dès les inscriptions bouddhistes les plus anciennes, celles qui indiquent qu'elles ont dans quelle intention ont été faites les donations, dès ces inscriptions, apparaît la volonté de rendre un culte non seulement aux statues, ce que vous voyez là est une statue de culte, auquel on fait une puja comme à tous les dieux indiens, c'est-à-dire que On la lave, on lui verse des parfums dessus, on verse des fleurs en dessous et on fait quelques prières pour les parents. C'est exactement ce que nous disent les inscriptions, même si nous ne savons pas les lire. Le Bouddha est considéré comme un dieu, et d'ailleurs, on nous le dit, il est Atideva, il est au-dessus des dieux. Et vous voyez bien que, aussi bien dans les légendes Pali que sur les reliefs gréco-bouddhiques ou les reliefs de Mathura, les épisodes marquants de sa vie sont célébrés par les dieux qui sont à ses côtés et qui lui rendent hommage, et par les êtres célestes comme les Gandharva, les Apsaras, qui lui jettent des fleurs. Et il a des pouvoirs qui sont supérieurs à ceux des dieux, parce que ses pouvoirs à lui sont manifestement éternels, alors que la vie des dieux est courte et que Indra un jour retombera dans les enfers. Il y a quelque chose d'autre que l'on n'a pas vu, c'est le nombre des Bouddhas. Vous savez que nous avons des listes de Bouddhas anciens qui ont chacun leur nom et qui... les sept Bouddhas du passé auxquels s'ajoute le Bouddha du présent qui est le Bouddha Shakyamuni, c'est-à-dire le Bouddha que ses contemporains ont pu connaître dans la période et dont le dharma n'est pas encore éteint. Et puis, il y a un bodhisattva, Maitreya, qui a déjà tous les pouvoirs d'un Bouddha et qui attend de revenir sur Terre pour devenir un Bouddha. Ce Maitreya, qui a déjà tous les pouvoirs d'un Bouddha, il est où ? Il est au paradis. Alors évidemment, ce n'est pas le paradis d'Amitabha, ce n'est pas le paradis d'Akshobhya, mais il est dans le ciel des 33 dieux. Il n'a rien d'autre à faire qu'à se tourner les pouces en étant, en regardant le monde et en attendant et en étant adoré par les 33 dieux quand ils ne sont pas occupés à autre chose. On n'est pas très très loin quand même de la notion de personnage éternel qui attend son moment pour agir et qui d'ailleurs agit uniquement par le fait qu'il n'agit pas, parce qu'il y a un certain nombre d'actes de dévotion à Maitreya et on le prend donc lui aussi pour un dieu. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que nous avons une séquence. Alors là, ce sont les mathématiques. Nous avons une séquence de sept Bouddhas que nous allons écrire comme ça. Plus un, ça fait le huitième. C'est le huitième, donc les sept Bouddhas du passé et le Bouddha actuel. En symbolique des chiffres indiennes, ça signifie la totalité. Une totalité en Inde, c'est 4, et la totalité est comprise littéralement de 4 pieds, 4 padas. Mais ce chiffre 4 est souvent multiplié par 2, donc 8, ce qui correspond aux 4 points cardinaux avec les 4 points cardinaux intermédiaires, ce qui fait que parfois on a 10 quand on travaille non pas en plan, mais en trois dimensions, puisqu'il faut rajouter le nadir et le nadir et le zénith. Et puis, ça donne aussi la totalité encore plus grande, qui est 4 fois 4 égale 16, chiffre que vous trouvez infiniment dans le bouddhisme pour expliquer une totalité, et en particulier dans les 16 Janapada, les 16 contrées, les 16 populations qui sont censées avoir constitué l'Inde avant l'époque du Bouddha, et qui en fait ne sont jamais à 16. Donc, lorsqu'on est à 8, ici, on a atteint la totalité du Bouddha, et Maitreya est le 9e. Or, le neuvième, dans toutes les langues européennes, c'est un mot nawa, en sanskrit. Le latin, c'est novus, le grec, c'est neos. Et ça signifie à la fois jeune et neuvième. Et l'explication de ceci vient d'un article de Gerschel, un tout petit article d'un monsieur qui n'est pas très connu, mais qui a écrit un des plus beaux articles que j'ai jamais lu dans les annales des années 60. C'est qu'à partir d'une totalité, vous avez le neuvième, la totalité étant exprimée par 8, vous avez le neuvième qui est un recommencement. Et donc, Gerschel ne cite pas cet exemple, il en cite beaucoup d'autres. Et ce recommencement, c'est le futur Bouddha, Maitreya, et vous avez un autre cycle qui va recommencer. En d'autres termes, on est, comme il n'est pas étonnant, dans une culture où le temps n'est pas longitudinal comme en Europe, mais où il est cyclique et où il n'y a jamais interruption. Il y a un éternel recommencement. On n'est pas très très loin non plus là des conceptions du temps du Mahayana. Et enfin, ce qui est connu depuis longtemps quand même, c'est que la carrière des bodhisattvas, qui est une carrière difficile et qui a été codifiée plusieurs fois et de façon diverse dans ce qu'on appelle les bodhisattvas bhumi, les étapes de la carrière du bodhisattva, et qui vont d'étapes de plus difficiles en plus difficiles. Et ces étapes, en tout cas un certain nombre d'entre elles, le montrent exerçant les vertus les plus extrêmes. Alors, cette extrémité des vertus, si j'ose dire, ça s'appelle les paramitas. Ça joue un rôle énorme dans le bouddhisme, puisque l'un des textes fondamentaux du bouddhisme mahayanique, ça s'appelle les prajñāparamitas. Mais c'est exactement ce que fait le Bouddha dans ses vies antérieures. Ses vies antérieures, en langage du bouddhisme ancien, ça s'appelle les jataka. Il y a un énorme recueil d'environ 600 jataka qui se retrouve dans toutes les écoles bouddhiques. Celles en pali sont traduites en anglais. Celles en chinois ont été traduites par Chavan il y a longtemps. Elles ont été utilisées par Fouché aussi. Ce sont des textes auxquels on n'a pas attiré beaucoup d'attention parce que ce sont des textes qu'on retrouve dans le folklore indien traditionnel, ce qui n'est pas bouddhiste. Enfin, en tout cas, un certain nombre d'entre eux. Et puis, en plus, leur fixation est tardive. On sait que ça n'a pas été... Ils sont canoniques, mais on sait qu'à Ceylan, la fixation date du 4e ou du 5e siècle, alors que pour le reste du canon, elle date du 1er siècle. Et qu'ils ont été la collection de textes de Jataka est toujours restée plus ou moins ouverte. En plus, ça raconte des choses tout à fait invraisemblables et même tout à fait incompréhensibles, comme l'un des plus célèbres Jataka, le Jataka du prince Vesantara, là je vous mets le mot pali, qui donne tout ce qu'il possède, y compris son royaume, son éléphant, sa femme, ses enfants et lui-même, à un brahmane avare. On peut se demander si c'est un épisode sur la générosité de Vesantara ou un épisode anti-brahmanique. Enfin, ça, c'est un autre problème. Ça paraît tout à fait extraordinaire, y compris comme extrémité de générosité de donner sa femme et ses enfants. Et donc, dans l'esprit tout à fait protestant laïque, protestant des Britanniques et laïque des Français, ces jataka ont été considérés comme du folklore. Mais ces jataka ont eu une importance énorme dans le bouddhisme. Le Vesantara jataka se retrouve dans toutes les pagodes thaïlandaises, du Vietnam, du Cambodge. Et les Jataka les plus anciens sont déjà illustrés dès les plus anciennes représentations bouddhiques, c'est-à-dire des Bharat et des Sanchi. C'est-à-dire dès le IIe siècle, les plus anciennes représentations du Bouddha sont accompagnées des plus anciennes représentations de ses vies. Et c'est les prodiges qu'il a fait dans ses vies antérieures, que ce soit comme animal ou que ce soit comme humain, qui explique qu'actuellement il soit Bouddha. En d'autres termes, les Jataka, qui ont eu une telle importance pour les bouddhistes, c'est une première étape, une première caractérisation de ce qui deviendra dans le Mahayana le bouddhisme, les bodhisattvas bhumi, les étapes de la carrière du bodhisattva. Il faut bien voir aussi que pour les fidèles, et peut-être même pour les théologiens, ces Jataka posent un problème. Comment un être aussi sublime que le bodhisattva a-t-il pu, dans ses existences antérieures, avoir des expériences qui sont aussi épouvantables? Comment a-t-il pu souffrir autant? C'est quelque chose qui se comprend difficilement, sauf s'il a été un énorme criminel dans des existences encore plus anciennes. Or, on ne nous dit jamais que le Bouddha a été un énorme criminel dans des existences plus anciennes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de sacrifier sa vie et aussi souvent dans ses existences antérieures? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de se trancher la gorge, par exemple, et de se jeter du haut d'une falaise pour nourrir une tigresse affamée? Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir de présence Vishvantara? Logiquement, dans le bouddhisme ancien, ça s'explique par les effets du karma. Mais ça ne peut pas marcher pour un croyant. D'autant, encore une fois, que je ne connais pas d'épisode où on nous dit, à la différence de ce qu'on nous dit pour beaucoup d'arhantes, je ne connais pas d'épisode où l'on nous dise que dans les existences antérieures, le Bouddha a été un grand criminel et que donc il a bien mérité de tomber dans les enfers et d'avoir une existence difficile plus tard. Jamais on ne nous dit ça. Donc la conclusion, elle est simple. Si le Bouddha a eu des expériences aussi effrayantes et en même temps aussi édifiantes dans ses existences antérieures, c'est qu'il l'a bien voulu. Et là, on est très très proche de la conception, bien que ça ne soit pas dit, on est très très proche de la conception du Mahayana, où le bodhisattva reste éternellement dans des existences où il peut secourir l'humanité souffrante, et pour cela, il prend l'aspect qu'il a envie de prendre. C'est exactement la conception des bodhisattvas sauveurs, et en particulier d'Avalokiteshvara, dans le Mahayana. Donc, vous voyez que il y a quand même dans le bouddhisme ancien un certain nombre, quelles que soient les écoles, un certain nombre de traits qui permettent à la religiosité de se développer et peu à peu d'arriver à être exprimée dans les textes qui sont les grands textes du Mahayana, les Prajnaparamita, le Lotus de la Bonne Loi, les Sukhavati ou le Vimalakirti Nirdesha. Pourquoi certains ont voulu porter cela à l'extrême? Parce qu'il y a toujours des extrémistes dans la religion. Il y a deux types d'extrémistes dans les religions. Il y a les fondamentalistes qui veulent revenir à ce qui est dans les textes, et puis il y a ceux qui veulent les développer. Mais en tout cas, que les mayanistes et les hinayanistes aient vécu en bonne ou relativement, comment dire, en bonne entente, on en a maintenant beaucoup d'exemples. On le savait depuis longtemps par un texte tardif, c'est-à-dire le voyage de Xuanzang, qui au début du 7e siècle a visité une bonne partie des monastères du nord et même du sud de l'Inde, et qui nous disait que dans tel monastère, il y a des moines hinayanistes et des moines mahayanistes. Ce qui correspondait à quelque chose auquel on ne prêtait pas beaucoup d'attention, mais qu'on savait aussi, c'est qu'il n'y avait pas de Vinaya mahayaniste. S'il n'y a pas de Vinaya hinayaniste, alors que les grands auteurs du Mahayana, quand ils sont connus, sont tous des moines, c'est que ces moines étaient ordonnés et vivaient dans des monastères qui utilisaient des vinayas et des règles d'ordination qu'on appelle les karmavachana, appartenant aux anciennes écoles. En d'autres termes, tous les moines mahayanistes dont on connaît le nom, et même ceux dont on ne connaît pas le nom, mais dont on suppose l'existence, parce que, comme je vous l'ai dit, les grands textes n'ont pu être écrits dans la forme où nous les avons, ou même dans la forme où nous les restituons, ils n'ont pu être écrits que par des moines instruits. Eh bien, tous ces moines ont d'abord été ordonnés dans des écoles bouddhiques anciennes, suivant des ordinations données par des maîtres Sarvastivadine ou Dharmaguptaka, ou Mahasamgika, et ils ont très probablement vécu dans ces monastères en se conformant au rituel de ces monastères, et en particulier au rituel principal qui est l'Upasampada, c'est-à-dire la déclaration des fautes tous les 15 jours. On sait maintenant, par la découverte de deux collections de manuscrits, que dans les bibliothèques de monastères, il y avait à la fois des grands textes du Mahayana et les textes ordinaires des écoles anciennes. Alors, ceci, c'est très nouveau. Ça dépend des découvertes qui ont été faites depuis 10 ans en Afghanistan. Je reviendrai peut-être la semaine prochaine là-dessus, parce que c'est quand même un sujet important. Mais il y a eu beaucoup de conférences, alors je ne sais pas encore si je me lancerai là-dedans. Mais en gros, depuis 20 ans, il y a eu 5 découvertes, 5 découvertes de manuscrits anciens. Je ne vous les donne pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre du nord au sud. Une énorme découverte a été la découverte des manuscrits de Bamiyan dans une cache. Ils ont été transportés à Peshawar et là, ils ont été achetés par un collectionneur norvégien, par des collectionneurs et ensuite rachetés par un collectionneur norvégien à Skøyen. Et il y a une équipe internationale s'est constituée et a très vite publié 3 volumes de ces manuscrits. Ce qui est une performance, d'une part parce qu'ils sont fragmentaires, difficiles à lire, et surtout les problèmes d'identification sont très difficiles, même si maintenant, grâce aux moyens informatiques, on a des index des textes, des concordances de textes qui permettent d'identifier assez vite les textes. Mais ces textes sont presque tous du 5e, 6e siècle, il y en a quelques-uns qui datent du 2e siècle, mais pour l'essentiel, ce sont des textes du 5e, 6e siècle, qui nous offrent, qui sont parmi les manuscrits les plus anciens du Mahayana. On peut dire que ça apporte beaucoup de choses du point de vue de la connaissance de ces textes et surtout de leur diffusion, mais ça ne change pas fondamentalement notre vision du bouddhisme Mahayana, bien que ces textes du Mahayana se trouvent dans un endroit dont nous savons par ailleurs qu'il relevait des Mahasamgika Lokottaravadin, qui sont un ordre du petit véhicule, depuis très longtemps suspecté, pour des raisons philosophiques, d'avoir donné naissance au Mahayana. Un Deux autres trouvailles différentes ont été faites, disons, au bazar de Peshawar, où elles sont arrivées. Et ce sont des manuscrits trouvés dans des jars dont on ne sait pas d'où ils viennent, probablement de la région de Jalalabad. On pense que ça a été découvert, je reviendrai là-dessus, lorsqu'il y a eu les combats autour de la prise de Jalalabad par des gens qui creusaient des tranchées. Alors, une première série de manuscrits sont des manuscrits usés, mis de côté, dans une jarre, peut-être sous un stupa, et une deuxième série, ce sont au contraire des manuscrits neufs mis dans une jarre sous un stupa. Alors, ceux-ci sont publiés par Salomon et ses élèves, et ça nous donne la première version que l'on ait du point de vue manuscrit d'un certain nombre de textes du bouddhisme ancien. Il n'y a pas un texte mayanique là-dedans. C'est intéressant pour diverses raisons, en particulier linguistiques, mais ça n'apporte pas de révélation sur les rapports entre Hinayana et Mayana. Et puis, il y a eu deux découvertes faites depuis 10 ans dans le Bajaur, pense-t-on, parce qu'on ne sait pas, tout ceci est arrivé à Peshawar, dans le Bajaur, qui est une région inaccessible pour les Occidentaux et même pour une bonne partie de l'armée pakistanaise. Et l'une, c'est une collection que publie M. Ingo Straur, un élève de Harry Falk à Berlin, et dont on a déjà une édition pirate, si j'ose dire, par mon élève pakistanais Nassim Khan. Et l'on sait que dans toute une série de manuscrits qui sont des manuscrits relevant de la vieille école, il y a un manuscrit extraordinaire qui serait une première version d'un texte mayanique bien connu, qui est la Kshobhya Viwa, c'est-à-dire la description du paradis des Bouddhas qui s'appelle Akshobhya, l'inébranlable. Et ce n'est pas la Kshobhya Viwa que nous avons maintenant, mais c'est manifestement une des premières versions avec des différences importantes. Le texte est en train de se constituer. Ce sont des textes de la fin du 1er siècle ou du début du 2e siècle. Et nous avons donc, dans le même monastère, et probablement dans la même cache ou dans la même jarre, des manuscrits de sutras tout à fait ordinaires, du point de vue du bouddhisme ancien, et un premier texte mayanique. Il y a un deuxième texte, une deuxième collection qui est en cours de publication par Falk, qui viendrait aussi du Bajaur. Et cette collection, on l'appelle la Split Collection parce qu'elle est en plusieurs morceaux. Et dans cette collection, elle est en plusieurs morceaux parce que les découvreurs ont partagé le lot entre plusieurs marchands. Donc Falk n'en a qu'une partie. Et dans cette collection, il y a non seulement des textes du Hinayana tout à fait ordinaires, mais il y a aussi une des premières versions d'un très très grand texte du Mayana, une Prajna Paramita, qui n'est pas exactement celle que nous avons, puisqu'il n'est pas dit le nombre de shlokas qu'elle comprend. Normalement, les Prajna Paramita sont en 16 000 ou en 80 000 vers. Et on a le colophon de cette Prajna Paramita, et le colophon semble dire qu'il y avait déjà deux versions différentes. Ça, c'est un texte du début du IIe siècle. Alors, ça correspond à ce que, par exemple, j'ai enseigné ici il y a une dizaine d'années, en disant que l'étude linguistique de ces grands textes prouvait que l'élaboration de ces textes remontait très probablement au 1er siècle. Ça correspond également au fait qu'un certain nombre de ces textes ont été traduits très tôt et envoyés en Chine. Ça correspond aussi au fait que ceux qui ont apporté les grands textes du Mahayana dans le Xinjiang et en Chine y ont surtout apporté des textes Sarvastivadine et Dharmaguptaka, c'est-à-dire des textes qui relèvent du protivéhicule. Et vous voyez très bien comment c'est le même milieu monastique qui, pour des personnes différentes, a donné lieu aux spéculations du Mahayana, qui, lorsqu'on regarde un peu les choses sans être un profond philosophe, moi je ne suis pas un profond philosophe, sont quand même très liés pour l'essentiel de la doctrine, ce qu'on appelle la shunyata, c'est-à-dire le fait que les pauvres humains que nous sommes sont incapables de voir la réalité des choses et qu'au-delà de la réalité que nous croyons voir et que nous croyons expliquer, il y a une réalité beaucoup plus importante dont on ne peut rien dire, c'est ça ce qu'on appelle la shunyata, que seuls des êtres que nous croyons exister, qui sont les bodhisattvas et les bouddhas, mais que nous définissons avec nos pauvres moyens humains, eh bien, cette réalité, seuls les bodhisattvas et les bouddhas peuvent l'avoir. Cette doctrine de la shunyata, elle est extrêmement liée sur le plan philosophique avec cette énigme du Bouddha, du bouddhisme ancien, qui fait que il n'y a pas d'existence de la personne et que pourtant nous avons l'existant, l'impression que la personne transmigre. C'est un peu la même chose. Et c'est la même chose également que la notion hindoue de la Maya qui postule que les êtres humains sont incapables de voir la totalité des choses, tout simplement parce qu'ils sont humains, avec cette vieille parabole des aveugles et de l'éléphant, les aveugles définissant chacun la partie de l'éléphant qu'ils touchent de façon différente. La différence essentielle quand même, si l'on regarde entre le Hinayana et le Mahayana, c'est d'une part que... Alors que la production de textes du petit véhicule attribué au Bouddha est fermée à peu près aux environs du 1er siècle et peut-être même avant, il y a une nouvelle production de textes considérée comme révélée et révélée à des êtres d'exception qui sont les bodhisattvas au cours d'une deuxième prédication qu'on appelle la deuxième tournée de la loi. Ces livres spécifiques ne constituent un ensemble que dans des collections tardives, qui sont les collections du canon tibétain ou les collections du canon chinois, mais dans le bouddhisme indien, rien n'indique qu'il y ait eu un canon mahayanique. Ces textes ne se trouvent pas ensemble, et lorsqu'on lit les textes, on s'aperçoit que ce qui est demandé aux fidèles, c'est non pas la propagation de la parole du Bouddha dans quelque texte que ce soit, dans quelque texte mahayanique que ce soit, mais le culte, comme dirait mon collègue Chopin, le culte du livre en question. Et ça se retrouve de façon extrêmement claire au Japon aujourd'hui, mais ça se retrouvait déjà en Chine, où vous avez pas de différence doctrinale essentielle, pas de lutte essentielle entre ce que nous appelons des sectes, qui sont en fait des groupes différents, mais les gens qui prônent le culte d'Amitabha lire le Sutra du Lotus. En fait, ils ont un grand livre qu'ils commentent à longueur de génération, si j'ose dire, de génération en génération, qui sont les deux Sukhavati Vyuha dans la traduction de Kumarajiva, et inversement, les gens de Nichiren ont un grand livre qu'ils ne cessent de commenter, qui est le sutra du lotus, le Saddharma Pundarika, dans la tradition de Kumarajiva. Eh bien, dans le bouddhisme ancien, quand on lit les textes, on a à peu près ça. On a des groupes de gens qui sont autour d'un grand texte et qui pratiquent ce grand texte, qui est très souvent, d'ailleurs, est un texte répétitif et qui n'enseigne pas grand-chose, mais que l'on apprend par cœur et que l'on recopie, et parfois que l'on recopie avec son propre sang. Ce qui change aussi dans le bouddhisme nouveau, c'est que vous avez un plus grand individualisme, puisqu'apparemment, bien que tous ces gens-là soient des moines, on puisse se sauver sans entrer dans une communauté monastique et sans se soumettre aux règles du Vinaya des moines. Ces communautés monastiques, elles n'étaient pas faites là, dans le bouddhisme ancien, comme une contrainte. C'était un moyen pour les êtres faibles que nous sommes de s'appuyer les uns sur les autres, une espèce de syndicat, si vous voulez, avec des règles qui leur permettaient d'échapper aux tentations de la vie courante, un contrôle qui leur permettait d'échapper aux tentations de la vie courante afin de ne pas accumuler des actes, et en particulier des mauvais actes, et donc d'obtenir ainsi une meilleure rétribution pour obtenir ensuite le nirvana. Et les étapes vers le nirvana étaient également codifiées. Il y en avait quatre, ceux qui sont tombés dans le courant, ceux qui ne renaîtront qu'une fois, ceux qui ne renaîtront pas, etc. Exactement comme les bodhisattvas bhumi. La différence, c'est que dans les textes du Mahayana, on n'a pas besoin de cela, bien que tous étaient des moines. Simplement, on prend des vœux, c'est ce qu'on appelle la bodhicitta. On exprime la pensée de la bodhi et on exprime la pensée de la bodhi devant un Bouddha et devant un texte. Et on peut penser qu'une statue comme celle-ci a reçu des vœux de bodhicitta et on fait le vœu au cours d'innombrables existences de sauver les êtres pour un jour et de retarder son entrée dans la bodhi jusqu'à ce que tous les êtres soient sauvés. Donc, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus individualiste, c'est aussi beaucoup plus prétentieux d'une certaine manière. C'est aussi beaucoup plus pessimiste parce que l'arrivée dans la bodhi se fera, si elle se fait un jour, après d'innombrables souffrances. Ce qui différencie aussi le bouddhisme du Mahayana dès le début de celui du petit véhicule, c'est ce culte du livre qui n'apparaît jamais dans les textes du bouddhisme ancien, alors que dans les textes du bouddhisme récent, on voit toujours qu'il faut recopier ce livre et le prêcher sans arrêt. Les textes du bouddhisme ancien nous parle de la parole du Bouddha, non pas du livre. Et puis, ce qui n'est pas clair non plus, probablement parce que pour les Indiens de l'époque, c'était évident, ce sont les rapports entre le maître et le disciple. Dans le bouddhisme ancien, les rapports sont codifiés. Quand vous entrez dans un monastère, vous êtes ordonné. Vous avez un maître qu'on appelle un acharya, et puis vous avez un tuteur qui vous enseigne le bouddhisme, qui s'appelle un upadhyaya. Et l'élève s'appelle un antevasin, celui qui habite à proximité, c'est-à-dire que lorsqu'il est jeune, il couche tout simplement au pied de son maître. Et comme dans l'hindouisme, le disciple sert son maître, c'est-à-dire il sert de domestique. Il sert de domestique et pendant que son upadhyaya lui apprend l'essentiel des textes et également l'essentiel des coutumes, comment se vêtir, comment manger, comment marcher, comment mendier, comment avoir les yeux vers le sol. C'est tout un entraînement. Cet entraînement et comment va de soi avec un extrême respect pour le maître. Porter la main sur son maître, c'est également un péché difficilement expiable. Pas aussi grave que tuer un arhant, mais enfin, c'est quelque chose de difficilement expiable. Dans les textes du Mahayana, nous n'avons pas cela. Nous n'avons pas cela. Théoriquement, il n'y a pas de maître. Mais on peut supposer que l'on ne peut arriver à prononcer la pensée de Bodhi, le Bodhicitta, que si on a un maître qui vous guide jusque-là. On a l'impression que c'est tout à fait implicite. Autrement, on n'expliquerait pas que dans le bouddhisme encore plus tardif, celui qu'on appelle du Mantrayana ou du Vajrayana, qu'on appelle le bouddhisme tantrique en France et en Occident, on n'expliquerait pas que dans ce bouddhisme, le rôle du maître, du gourou, et le rôle de l'initiation soient aussi importants. S'il n'y avait pas de maître dans le bouddhisme Mahayana, eh bien, ce serait une rupture fondamentale avec la religiosité indienne. Il est très probable que dans les monastères indiens, qui étaient des monastères du petit véhicule, il y avait des acharyas mahayaniques qui enseignaient ces textes à leurs élèves et qui les initiaient à ces textes en leur disant, comme il est dit dans le début de ces textes, que ces textes ne sont pas pour tout le monde, que ces textes sont simplement pour les gens qui sont des initiés et qui ont sont, si l'on veut, des élus. Et si c'est le cas, on est tout à fait dans la même perspective que dans le bouddhisme ancien. Ce qui change aussi dans le bouddhisme mahayanique, c'est que, alors que la pluralité des univers n'est pas du tout affirmée dans le bouddhisme ancien, mais qu'elle est susceptible d'être interprétée ainsi, et la pluralité des Bouddhas n'est pas affirmée de façon aussi évidente que dans le bouddhisme récent, il y a quand même dans le bouddhisme récent une attention beaucoup plus importante portée au fait que les univers sont innombrables, là c'est dit explicitement, que les Bouddhas sont innombrables, que les Bodhisattvas sont innombrables aussi, et que certains sont des dieux éternels ayant autant de pouvoir qu'un Bouddha, comme ceux que l'on connaît bien, comme Avalokiteshvara, qui ne mourra jamais, dont on ne sait pas si un jour il est né, comme Manjushri, par exemple, ou comme celui dont j'ai étudié l'enseignement il y a quelques années, Vimalakirti, et j'avais montré qu'il y avait un passage permanent de la désignation de ce personnage, tantôt comme maître de maison, tantôt comme bodhisattva et tantôt comme Bouddha. Il y a certainement également dans le bouddhisme Mahayana une plus grande attention à la mort, une plus grande attention à la souffrance et en particulier aux souffrances de l'enfer, une plus grande attention aux moyens de remédier. En d'autres termes, il y a une religiosité qui n'est pas très différente de celle du bouddhisme ancien, mais qui est beaucoup plus accentuée et beaucoup plus affirmée. Il y a dans le Mahayana la mise au clair et l'expression tout à fait directe de tendances qui se trouvent dans le bouddhisme ancien. Et comme toujours, ceux qui ont prononcé cette doctrine ont considéré que c'était la meilleure et qu'ils étaient des personnages d'élite alors que les autres n'étaient pas des personnages d'élite. Et ça posera la question suivante que j'étudierai peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours si je me décide à vous parler des collections de manuscrits découvertes. Si le Mahayana et le Hinayana sont si proches, quand on a une sculpture, comment détermine-t-on si celui qui l'a faite celui qui l'a payé, celui qui lui rend hommage, est un adepte du Hinayana ou du Mahayana. Alors ça, nous verrons cela, si vous le voulez bien, soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours, mais en tout cas, nous le verrons. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui et je vous signale, vous avez droit à une demi-heure de repos avant d'écouter Madame Gauche qui nous parlera d'un site bouddhique, Mahayana Mati. Je vous remercie.